Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Salah Abdeslam choisit le coup d'éclat au premier jour du procès des attentats du 13 novembre. Nous étions à l'intérieur de la salle d'audience, compte rendu dans un instant. La réforme des retraites, ce n'est toujours pas pour maintenant. Les conditions ne sont pas réunies, estime Jean Castex, entre une épidémie à chasser et une reprise à confirmer. Attention aux orages et aux inondations. Cette nuit du sud-ouest à l'Île-de-France, 32 départements en alerte orange. Un point météo complet à suivre avec Marlène Duret. C'est une première en France. La SNCF devrait bientôt perdre une ligne TER au profit d'un opérateur privé. Nous verrons ce que cela va changer pour les voyageurs. Les sanctions vont bientôt tomber après les graves incidents du match Nice-OM le 22 août dernier. Réunion de la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle et verdict attendu dans la soirée. À suivre après le journal Les valeurs boursières avec Top à Wall Street. L'invité éco sera Stéphane Boujna, président du directoire d'Euronext, à l'heure où de plus en plus d'investisseurs se lancent dans la finance verte. Et puis, un premier coup d'œil sur les unes de la presse de demain matin.
Europe 1.
Salah Abdeslam s'est plaint au premier jour du procès des attentats du 13 novembre. Le seul survivant des terroristes a redit son allégeance à l'État islamique. Vous étiez dans la salle d'audience, Marion Dubreuil. Vous avez vu et entendu Abdeslam. Première prise de parole en forme de provocation.
Oui, Salah Abdeslam, polo noir, masque noir, cheveux mi-longs, barbe fournie, a pris la parole avant même les questions de la cour. Je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Ses propos ont provoqué une rumeur dans la salle d'audience. Imperturbable, le juge l'a interrogé sur sa profession. « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique », a répondu Salah Abdeslam. Le président l'a alors repris avec calme. « J'avais intérimaire comme profession ». Provoquant des sourires dans la salle. À la suspension, Jean Reinhardt, avocat de parti civil, n'est pas surpris par cette posture.
Ceux qui connaissent le dossier ne sont absolument pas surpris de cette déclaration. Évidemment, j'avais prévenu mes clients. Évidemment, on savait qu'il allait de nouveau indiquer qu'il faisait allégeance à son Dieu, etc. etc. Pas d'étonnement. Non, à la limite, ce qui m'a plus surpris, c'est qu'il ait continué de répondre aux autres questions. Ça peut nous laisser supposer qu'il continuera de parler.
Nouvelle sortie de Salah Abdeslam à la reprise. Profitant du malaise d'un de ses co-accusés, il s'est levé dans le box pour dénoncer ses conditions de détention. « Vous ne faites pas attention aux gens. Dangereux ou pas dangereux, on est des hommes, on a des droits. Cela fait 6 ans que je suis traité comme un chien », a déploré celui qui est à l'isolement, surveillé 24 heures sur 24 en prison.
Oui, et au-delà des provocations d'Abdeslam, le président de la cour d'assises spéciale a fixé un cap à ce procès, Mario.
Oui, un cap aux 1800 parties civiles. Jean-François Périès s'est adressé aux rescapés, aux proches endeuillés dans la salle d'audience. Le magistrat a parlé d'un procès historique et hors norme qui devra intégrer la norme. Un bon signal pour Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris.
Moi, je crois que ce qu'il faut vraiment retenir, et ce que vont retenir les parties civiles, c'est que le président a fait un discours introductif où il a rappelé quelque chose d'important, c'est que c'était un procès hors norme, mais qui devait respecter la norme judiciaire. Et ça, je crois que c'est le vrai message démocratique qu'il faut entendre aujourd'hui. Et sinon, on va passer 9 mois à commenter les phrases à moitié finies de type pas extrêmement lucide.
Et les accusés ne seront pas interrogés avant le 2 novembre prochain, puisque jusque-là, l'audience sera consacrée aux dépositions des enquêteurs et aux témoignages des parties civiles.
Marion Dubreuil au Palais de Justice de Paris. Les survivants, les familles des victimes attendent ce procès depuis 6 ans, avec la douleur aussi de revivre cette nuit du 13 novembre 2015. Dominique Kielmoès est la mère d'une victime des terroristes. Elle est aussi responsable d'une association de victimes heurtée par les premiers mots d'Abdeslam.
En tant que mère d'un jeune garçon de 24 ans assassiné à la Belle Équipe, Victor, évidemment ça me fait mal. En tant que vice-présidente d'association, j'ai 2 casquettes ici, on n'en attendait pas plus. C'est un assassin, on aimerait qu'il reconnaisse son crime. Bon, mais il ne le fera pas et on ne veut pas lui être redevable. Et puis on a tellement de mépris pour lui que finalement ça ne nous touche pas tant que ça. C'est sa manière de tenir debout aussi, sûrement, parce que s'il change d'attitude, ses crimes sont des vrais crimes et non plus de justification à ses yeux. Donc oui, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Ce qui fait mal aussi, c'est quand on voit l'énumération des gens qui sont dans le box, on se dit que quand même, la Belgique, on aurait peut-être pu réagir un peu mieux et un peu plus vite et un peu plus fort. Parce que quand même.
Voilà, Gladys Laffitte a recueilli ce témoignage de Dominique Kielmoès, la mère de Victor, tuée à 24 ans dans les attentats du 13 novembre 2015. Le procès de ces attentats va durer 9 mois. Il sera donc filmé pour l'histoire. C'est exceptionnel pour la justice française.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Jean Castex enterre à nouveau la réforme des retraites. Elle ne sera pas relancée dans l'immédiat. Les conditions ne sont toujours pas réunies, estime le Premier ministre.
La réforme des retraites est une nécessité absolue. Ce processus ne pourra reprendre que lorsque la pandémie sera sous contrôle et que la reprise économique sera suffisamment solide. C'est une question de bon sens. À ce jour, ces conditions ne sont toujours pas réunies.
Des conditions toujours pas remplies, la réforme des retraites s'éloigne donc une fois de plus. Que se passe-t-il au sein de l'exécutif, Jacques Serret ? Est-ce qu'on a une explication ?
Oui, tout simplement, la réforme ne fait pas l'unanimité au sein de l'exécutif. Le dossier des retraites était réapparu sur le devant de la scène il y a 2 jours dans la presse. Le président hésite, il veut prendre son risque, expliquaient certains de ses conseillers. De quoi faire circuler la rumeur d'une suppression des régimes spéciaux avant la fin du quinquennat. Hier encore, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, indiquait que la question des retraites n'avait jamais quitté la table, qu'il n'y avait rien d'enterré. Sauf que voilà, depuis 2 jours justement, le sujet embarrasse tout le monde, ou presque dans le camp du chef de l'État. Des cadres de la Macronie comme Christophe Castaner ont fait savoir que ce n'était pas le moment et que de toute façon le calendrier législatif était plus que contraint d'ici à la fin du mandat. Le message a été reçu au palais, d'où cette mise au point du Premier ministre après 48 heures de valse-hésitation.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron présidera demain après-midi l'hommage national à Jean-Paul Belmondo. Le public pourra se recueillir ensuite sur le cercueil de l'acteur à partir de 19h30 dans la cour de l'hôtel des Invalides. Prudence, si vous vivez dans l'un des 32 départements placés ce soir en alerte orange, du sud-ouest à la région parisienne, des orages violents sont attendus cette nuit. Ils pourraient s'accompagner de grêles et de fortes pluies, en particulier dans l'Aude, où la situation est suivie de près. Joëlle Gras, la directrice de cabinet du préfet.
Les services sont en préalerte et nous avons bien entendu mis en place un dispositif préventif de sapeurs-pompiers. Donc, il faut savoir qu'il y a 120 sapeurs-pompiers qui sont déjà prépositionnés sur site et nous avons eu un renfort de sapeurs-pompiers extra-départementaux, une centaine de sapeurs-pompiers pour pouvoir intervenir au plus vite. Bien entendu, nous appelons la population à adopter des comportements responsables, d'éviter tout déplacement cette nuit puisque l'événement le plus critique sera entre 2h et 8h du matin. Ne pas descendre bien sûr dans les sous-sols, ne pas aller dans les caves, ne pas diffuser aussi, et je le dis bien, de fausses informations, parce que parfois il y a des rumeurs qui circulent et ce n'est pas du tout fondé. C'est de rester à l'écoute des consignes données par les autorités en suivant les comptes officiels, que ce soit de la préfecture, que ce soit InfoRoute, pour se tenir informé de l'état de la circulation sur les voies.
Joël Gras avec Caroline Baudry. L'étiquetage de l'origine des viandes va devenir obligatoire en 2022 dans la restauration. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, annonce un décret pour la fin de l'année. Jusqu'ici, seule l'origine de la viande de bœuf doit être mentionnée au restaurant, héritage en particulier de la crise de la vache folle. C'est une première en France. La SNCF devrait perdre une ligne TER au profit d'un concurrent du privé. Transdev est sur le point de prendre l'exploitation de la ligne Marseille-Nice. Premier coup de canif dans le monopole de la SNCF pour le transport de voyageurs. Aurélien Fleureau, ça veut dire quelques changements à venir pour les usagers, hein ?
Oui, il faudra changer quelques habitudes pour réserver son billet de train ou payer son abonnement. Ce sera directement auprès de Transdev qui va gérer tout l'aspect commercial. D'ailleurs, en ce qui concerne les prix, ce ne sera a priori pas une révolution pour les voyageurs. Tarif équivalent à ce que propose la SNCF, a précisé la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En revanche, le grand changement pour les habitués de la ligne Marseille-Toulon-Nice, c'est la fréquence des trains qui sera doublée, 14 allers-retours chaque jour à partir de 2025, date du début du contrat remporté par Transdev, un opérateur déjà très présent en France, mais jusqu'ici plutôt sur les bus et les trams. Alors ils ne vont pas découvrir le ferroviaire, ils ont par exemple 7% de part de marché en Allemagne. Transdev devra également assurer la maintenance des trains, accueillir les 166 cheminots de la SNCF concernés, selon des modalités de transfert à préciser, même si le cadre légal existe. Enfin, la compagnie historique n'a pas tout perdu, puisqu'elle garde tout de même 90% de l'offre TER de la région, notamment après avoir remporté un autre appel d'offres, celui des lignes Azure.
Aurélien Fleureau, c'est l'heure des sanctions. Après les incidents du match de foot Nice-Marseille, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel doit rendre sa décision dans la soirée. Cyril de la Morinerie, on n'a pas oublié, Cyril, ces images atterrantes du match Nice-OM le 22 août dernier.
Exactement. Et pour l'instant, toujours pas de fumée blanche, puisque les joueurs de Marseille, Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez, ont bien quitté un peu avant 21h l'hôtel parisien où la commission de discipline de la Ligue les a auditionnés. Mais on n'a toujours pas reçu donc de messages de la Ligue de football ou d'appels pour nous notifier les sanctions. Sachez que Georges Sampaoli, l'entraîneur, s'est arrêté pour prendre quelques photos avec la quinzaine de supporters postés à l'entrée du site. Et puis le président de Nice, Jean-Pierre Rivière, et l'entraîneur Christophe Galtier sont également venus à Paris pour s'expliquer sur donc cette triste soirée qui s'est arrêtée dans un premier temps à la 75e minute de la rencontre. La suite, eh bien, c'était en direct sur Europe 1 avec Jean-François Pérez et Frédéric Hélion.
On va l'espoir du terrain. Une cinquantaine de supporters qui rentrent pour en découdre et les Marseillais qui arrivent aussi. Dimitri Payet touché en pleine tête par une bouteille qui tombait des tribunes en plastique.
C'est ce qui a fait derrière partir complètement la situation en vrille.
Oui, le match est interrompu pendant une heure et demie avant de reprendre quelques secondes seulement sans les Marseillais. L'arbitre met fin à cette mascarade.
Monsieur Bastien, voyant que les Marseillais n'étaient pas là, a sifflé trois fois et a donné l'ordre aux joueurs de rentrer au vestiaire. C'est fini.
Voilà, trois jours plus tard, la commission de discipline décrète un huis clos à titre conservatoire à l'Allianz Riviera, suspend l'entraîneur adjoint de l'OM Pablo Fernandez qui a donné un coup de poing à un supporter et donne rendez-vous le 8 septembre pour prendre des décisions définitives. On y est, les acteurs de cette triste soirée risquent plusieurs matchs de suspension, mais surtout quel sera le sort réservé à cette rencontre qui s'est terminée sur le score de 1-0 en faveur de Nice. Confirmer le résultat, déclarer Marseille vainqueur sur tapis vert, rejouer la partie ou geler le match. Autrement dit, une rencontre sans vainqueur et sans points attribués. Toutes les options sont sur la table. Quoi qu'il arrive, la décision de ce soir va faire beaucoup parler et le dossier sera sans doute loin d'être clos puisque les clubs auront toujours la possibilité de faire appel.
Merci Cyril de la Morinerie. Alors qu'on attend donc ce soir en effet les sanctions pour le match Nice-OM, sanctions qui devraient provenir de la part de la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle. Il pourrait bien révolutionner la compréhension de l'univers et de nos origines. Après des années de reports successifs, le télescope spatial James Webb sera lancé le 18 décembre prochain dans une fusée Ariane 5, fusée qui sera lancée depuis la base de Kourou en Guyane française. C'est ce qu'annonce ce soir Ariane Espace. Attention à la météo de ce jeudi, on l'évoquait il y a quelques instants, hein. 32 départements en vigilance orange. On fait donc un point sur les orages attendus pour cette nuit avec vous, Marlène Duret.
Oui, je vais commencer par un orage qui s'est produit ce soir entre 20h et 21h30, en tout cas pour le gros de l'orage dans le sud-ouest, à Agen précisément, en une heure. Écoutez bien Alexandre, il est tombé quasiment l'équivalent d'un mois et demi de pluie et il s'agit d'un record de pluie quotidien absolu depuis l'ouverture de la station en 1941.
Forcément des inondations à la clé.
Et il y aura beaucoup d'images aussi, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Un gros orage aussi s'est fait remarquer dans le Cher. Il est tombé entre 19h et 20h, l'équivalent d'un mois de pluie en une heure. Pas mal d'activités vers le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Tarn-le-Lot. C'est vraiment dans le sud-ouest qu'ils seront les plus forts cette nuit parce que ce n'est pas terminé. Et ce qu'il faut retenir, c'est le caractère très pluvieux et stationnaire de ces orages. Ce ne sont pas vraiment les vents qui posent problème. Quand on remonte un peu plus vers la région parisienne, moins de phénomènes violents a priori. Donc au total, je vais quand même redonner hein, 32 départements en alerte orange pour des orages. Il y a ceux de la région Île-de-France, du centre-Val de Loire. Il y a aussi la Sarthe, l'Yonne, la Nièvre, l'Allier, l'ensemble du Limousin, la Dordogne et tout le Midi-Pyrénées, avec une double vigilance pour le département de l'Aude, sous surveillance en raison des cumuls d'eau. Pour demain, retenez que la zone de pluie et d'orage va s'attarder. Allez, on voit l'axe hein, sud-ouest-nord-est de l'Occitanie au Massif central, à la Bourgogne, jusqu'à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine. Avec, alors là, on va surveiller l'Aude, le sud du Tarn et l'Hérault, parce que là, ils auront véritablement les pieds dans l'eau. À l'ouest de toutes ces régions, de l'instabilité qui va reprendre dès la mi-journée sous forme d'averses orageuses. Voilà, ça c'est vraiment pour le principal. Quant aux températures, allez, les maximales vont baisser forcément après le passage des orages. La minimale 21 du côté de Concarneau, Nous aurons 23 à Tarbes, à La Rochelle, dans la Nièvre aussi. Là, on va perdre une grosse dégringolade. Hein. On va passer, je regardais tout à l'heure, de 32 à 23, ouais. Exactement. 24 à Dijon, Mâcon et Cognac pour demain. 25 à Agen, 26 à Metz, 27 à Paris, à Nîmes et Grenoble, 28 à Toulon. Allez, ça monte encore jusqu'à 29 à Marseille et 30 degrés à Ajaccio.
Merci Marlène. Prudence, hein, donc si vous vivez dans ces régions de l'Occitanie, département de l'Aude en particulier, menacées ce soir et cette nuit par des inondations. On fera un nouveau point météo avec vous, bien sûr, Marlène, à minuit. On suivra l'évolution de ces intempéries dangereuses signalées par Météo France. Restez avec nous dans un instant, Top à Wall Street avec Didier Hamo. L'invité éco sera le patron d'Euronext, à l'heure où la finance verte est préféré par de nombreux investisseurs. On découvrira ensemble également les unes de la presse de demain matin. A tout de suite sur Europe 1.
Exity.fr. Europe News. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamo de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street termine sur une note prudente ce soir en attendant les prochaines décisions des banques centrales.
Un marché très prudent, oui, calme, avant les décisions monétaires de la Banque Centrale Européenne, ce sera jeudi. La Fed aussi, la Réserve Fédérale Américaine, très suivie, avec des annonces un petit peu plus restrictives à suivre. Moins de largesse monétaire sur fonds de reprise économique, c'est assez logique. Pour l'instant, ça ne panique pas les marchés. Moins 0,2% sur le Dow Jones, petite baisse, 35 031 points. Moins 0,57% sur le Nasdaq. L'indice des valeurs de technologie recule à 15 286 points. Il n'est pas loin de ses sommets historiques. On a battu pas mal de records ces dernières séances. D'ailleurs, ce soir, il n'y a pas vraiment de casse. Apple repère 1%, 155 dollars. Facebook, moins 1,3%, 377 dollars. On a même Tesla en légère hausse, plus 0,1% à 754 dollars. Inchangé, Microsoft est à 300 dollars, Amazon à 3525, inchangé aussi. Intel, 53,55 dollars. Ça remonte un petit peu sur le pétrole, plus 1,4%. Il avait pas mal baissé ces dernières séances. On est quand même sous les 70 dollars le baril, 69,35 dollars. L'euro revient aussi un cran en arrière, 1,1820 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a clôturé en baisse, elle aussi Didier, dans un marché plutôt prudent.
Moins 0,85%, 6669 points sur le CAC 40. Un marché prudent, oui, avant la réunion donc de la Banque Centrale Européenne jeudi, qui pourrait commencer à resserrer sa politique monétaire après les récents indicateurs d'inflation plus mauvais que prévu, en particulier au mois d'août. La baisse a encore concerné les dossiers industriels comme Nexans, moins 4,3%. Plastic Omnium, moins 3,5%. Rexel perd 3% avec chargeur. On a aussi Sanofi qui repère 2,5%, 84,79 € après l'annonce du rachat du groupe américain de biotechnologie Cadmon pour 1,9 milliard de dollars, spécialisé dans l'oncologie. Donc le groupe Cadmon, un groupe américain, une biotech, comme on dit. Sur les autres variations, on a de grosses valeurs comme Stellantis en baisse aussi, moins 2%, l'ancien Peugeot. Lafarge, moins 2% avec Eramet et Renault, moins 0,8% du côté toujours des industriels.
Exception du jour, le titre Aramis a rebondi après la révision à la hausse de ses prévisions financières.
Un joli rebond, 1,8%, 19,24 €. Le groupe spécialiste de la vente en ligne des voitures d'occasion a revu en hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 1,35 milliards d'euros après un très bon troisième trimestre. Le titre, récemment introduit en Bourse de Paris au mois de juin dernier, reste quand même sous son cours d'introduction qui était de 23 €. On est en hausse ce soir d'1,8%, 19,24 € donc sur Aramis. Les autres places financières en Europe sont en baisse. Le DAX, moins 1,5% à Francfort, moins 1,5% à Bruxelles, moins 0,6% à Madrid, moins 0,7% aussi à Milan. Et le CAC 40 en baisse de 0,85%, donc 6669 points.
Merci Didier Hamo de Boursier.com. Les investisseurs misent de plus en plus, je vous le disais il y a un instant, sur la finance verte et les investissements responsables. L'invité éco ce soir sur Europe 1, Stéphane Boujna, directeur général et président du directoire d'Euronext. Il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Stéphane Boujna.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général d'Euronext. Alors c'est quoi Euronext ? Eh bien c'est le plus gros opérateur boursier en Europe, hein, puisque vous êtes aussi bien présent à Amsterdam, à Paris, à Lisbonne. Et depuis cet été, vous avez également repris la bourse italienne de Milan. Vous êtes donc aujourd'hui l'un des plus gros opérateurs boursiers au monde. On pourrait même dire que vous êtes un peu l'Airbus de la bourse avec toutes ces places financières. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce qu'on peut tous être un petit peu impressionnés, mais les marchés se portent très bien. Le CAC 40 a tutoyé ces dernières semaines ses records. On bat aux États-Unis record sur record. Comment ça s'explique? C'est la reprise?
C'est la reprise un peu partout sur la planète. Bien sûr aux États-Unis, où il y a eu le plus gros plan de stimulation de l'économie jamais lancé par les autorités des États-Unis. C'est la reprise en Asie et singulièrement en Chine. Et puis c'est la reprise partout en Europe, où progressivement, la vaccination progressant, le déconfinement progressant également, le rattrapage des économies est en place. Avec là aussi des programmes de stimulation de l'économie et de relance qui sont sans précédent.
Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'évolution des marchés financiers, je suis sûr que certains auditeurs là en voiture à la maison se disent « Ouais, eux, ça a été beaucoup moins dur pour eux que pour beaucoup d'autres salariés. » Comment on explique que c'est si bien résisté pendant cette période?
D'abord, il faut accepter l'idée que les indices boursiers ne reflètent pas toute l'économie. Il y a un groupe d'hôtels cotés dans le SBF 120, mais il y a des dizaines de milliers d'hôtels qui ne sont pas cotés et qui ont connu des difficultés. Il y a un gros groupe ou deux peut-être de cotés au CAC 40 ou SBF 120 dans le secteur de l'immobilier, et il y a des dizaines de milliers de commerçants qui n'ont pas pu ouvrir. Donc il y a une sous-représentation dans les grands indices boursiers des petits commerces et des activités qui ont subi de plein fouet la crise. Donc c'est vrai que les indices représentent plutôt les plus grosses entreprises qui ont des risques extrêmement diversifiés. Mais c'est vrai que ces entreprises-là ont aussi des performances opérationnelles qui ont été très bonnes. La réalité, c'est que les banques centrales, d'abord, en injectant beaucoup de monnaie dans l'économie depuis le début de la crise en mars 2020, et les gouvernements ensuite en payant d'une certaine manière les factures avec les prêts aidés par l'État ou les salaires avec le chômage partiel, ont permis de maintenir en bon état l'appareil productif. Et donc c'est ça qui permet une relance extrêmement rapide.
Et ça, c'est à saluer en effet pour que l'économie reparte. Ce qui est aussi intéressant, et c'est peut-être là même un petit peu contre-intuitif, on dit souvent que les Français sont loin de la bourse. Et pourtant, en 2020, 400 000 comptes-titres ont été ouverts. Ce sont des chiffres de la Banque de France. Les Français reviennent à la bourse. C'est quoi? C'est l'effet confinement? On était à la maison, on ne savait pas trop quoi faire. On s'est dit, tiens, je vais essayer. C'est peut-être un peu le dernier placement où je peux gagner un peu de sous?
Il y a sans doute cela, hein. Les gens ont été chez eux et toute une nouvelle génération de participants au marché boursier est arrivée, des gens qui ont l'habitude d'être sur des consoles, sur des écrans et qui ont trouvé dans les marchés l'occasion de pouvoir placer leur épargne. Il y a surtout quelque chose de plus fondamental, c'est que les produits à taux fixe habituels d'épargne ne rapportent plus grand-chose compte tenu des taux fixes très bas qui font que le rendement de votre épargne investie à taux fixe est au mieux, rapporte au mieux zéro, mais le plus souvent des rendements négatifs après inflation et après frais de gestion. Donc il y a vraiment un intérêt objectif, si on veut du rendement, à aller investir dans les actions.
Et ça se poursuit en 2021? Vous voyez toujours ces Français revenir un peu plus massivement en bourse?
Absolument. Alors le pic a été effectivement en 2020, où on est passé de 3% du marché à 6% du marché conduit par les investisseurs particuliers. On est plutôt entre 4 et 5% désormais, mais c'est évident qu'il y a eu un renouvellement complet de l'intérêt des investisseurs particuliers, surtout pour les introductions en bourse et surtout pour les introductions en bourse d'entreprises de petite taille et notamment d'entreprises technologiques sur lesquelles les investisseurs particuliers sont extrêmement présents, en particulier les plus jeunes d'entre eux.
S'il y a bien un changement majeur en ce moment, c'est la politique d'investissement d'une certaine manière de tous les investisseurs, sûrement de ceux qui arrivent et plus globalement des grands investisseurs, des grandes entreprises. Aujourd'hui, tout le monde est en train de muter vers le vert, vers les technologies de transition, vers tout ça. Est-ce que vous le voyez aussi massivement? On est peut-être face au plus grand changement de ces dernières années en matière d'investissement.
C'est indiscutable, c'est la plus grande transformation du capitalisme, probablement depuis au moins la révolution industrielle. On a une mutation des préférences collectives des investisseurs qui s'est cristallisée dès 2020 avec la décision d'Amundi, par exemple, de BlackRock, de faire converger l'intégralité de leurs fonds sous gestion dans des fonds dits ESG, c'est-à-dire qui sont investis dans des activités qui participent à la lutte contre le changement climatique et la décarbonisation de l'économie, qui participent à rendre l'activité des entreprises plus socialement responsable et qui participent à produire une gouvernance plus transparente dans leurs instances de direction. Et clairement, c'est une mutation absolument profonde. Nous-mêmes, nous participons à ce mouvement puisque nous avons lancé au mois de mars l'année dernière, le CAC 40 ESG, et c'est Vigeo Eiris qui fait ce classement, c'est pas nous.
Qui est une agence de notation spécialisée sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
Exactement, mais on participe à ce mouvement parce que l'intégralité des grandes gestions, des gros investisseurs désormais, font migrer leurs investissements, parce que pendant des siècles, ils ont demandé du rendement, de la liquidité, de la performance. Et bien maintenant, ils demandent du rendement, de la liquidité, de la performance, mais aussi une contribution à la lutte contre le changement climatique, mais aussi une transparence.
Est-ce que c'est vraiment « mais aussi » Stéphane Boujna ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui prend en compte ses préoccupations sociales et environnementales est une entreprise qui fera plus de profits ? Donc ce n'est pas « mais aussi », c'est « parce que » ou « grâce », non ?
Oui, enfin, je pense que c'est d'abord, mais aussi, c'est-à-dire, c'est d'abord une condition complémentaire au rendement. Ce qu'on observe, c'est que la prise en compte du long terme est quelque chose qui, effectivement, est très synergétique, pour utiliser un anglicisme, permet de se projeter dans la résolution de problèmes et dans la création de valeur, indépendamment des conditions liées à l'environnement, la gouvernance ou la contribution à la société. C'est évident, et c'est démontré d'ailleurs par la recherche académique. Mais ce que je veux simplement indiquer, c'est que quand on fait le CAC 40 ESG, on s'intéresse aux 60 sociétés qui ont la plus grosse liquidité et le plus gros flottant, et parmi elles, Vigeo Eiris sélectionne les 40 qui performent le mieux par rapport à 38 critères en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de transparence et diversité dans la gouvernance. Mais il y a des secteurs qui, dans l'énergie notamment, qui sont les héritiers de magnifiques entreprises très carbonées, qui continuent à être très performantes, alors même que la nature même de leurs activités les conduisent à engager une transition plutôt qu'à être...
Et qui le font massivement si on regarde l'une des plus grosses capitalisations européennes, notamment Total en France, qui est en train de bouger beaucoup là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Boujna. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Euronext, hein, la plus grosse place financière en Europe, aussi bien à Lisbonne, à Paris, à Milan ou encore à Amsterdam. Un grand merci. Nous, on se dit demain 22h20 sur Europe 1.
Emmanuel Dutheil, on vous retrouve demain aux côtés d'Elisabeth Assayag pour La France Bouge en direct de 13h à 14h sur Europe 1. Il sera question des cantines et de la restauration collective. Votre invité Emmanuel sera la patronne de Sodexo en France.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec les unes de vos quotidiens, demain matin, il sera beaucoup question de la reprise à la une de la presse. La reprise fragilisée par les pénuries de main-d'œuvre, titre Le Figaro. Alors que la croissance repart fortement après 18 mois de crise sous le signe du Covid, de nombreuses entreprises ne trouvent pas de personnel et peinent même à faire face à la demande. Vous l'avez d'ailleurs entendu hein, sur Europe 1. C'est vrai par exemple dans le Cotentin, 5000 postes à pourvoir dans la région de Cherbourg qui manquent de bras, au point d'ailleurs de lancer une campagne de séduction pour tenter de faire venir de nouveaux arrivants, de nouveaux travailleurs dans la région. La reprise économique fait grimper les indices des prix. C'est ce qui relance les débats sur la défense du pouvoir d'achat, note La Croix. Inflation, la poussée de fièvre. Et dans cette poussée de fièvre, Libération s'intéresse aux oubliés de la reprise. L'exécutif qui se vante pourtant de résultats économiques spectaculaires, écrit Libé, n'envisage pour les travailleurs de la deuxième ligne célébrés lors du premier confinement qu'un simple rattrapage du SMIC. Le procès des attentats du 13 novembre est aussi à la une de vos journaux demain matin, à la une de Ouest-France par exemple. La cour d'assises spéciale, les parties civiles, les familles de victimes ont choisi la dignité, écrit Ouest France, face aux provocations de Salah Abdeslam. Le seul survivant des terroristes a redit son allégeance à l'État islamique à l'ouverture de ce procès des attentats du 13 novembre, avant de se plaindre de ses conditions de détention. Voilà pour un premier panorama des unes de vos quotidiens demain matin. 22h30 sur Europe 1, merci d'être avec nous. On retrouve et on accueille Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre, comment allez-vous ?
Ça va très bien et vous ?
Ça va très bien. Je pensais à ce procès qui doit être assez incroyable à vivre. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va bien se passer pour les victimes, car quand je vous entends évoquer la posture de ce... j'ai du mal à prononcer son nom d'ailleurs. Je trouve que voilà, c'est une provocation encore envers ses victimes et on va bien penser à elles. Et bien évidemment, vous qui nous écoutez, si vous avez été témoin de cette soirée ou de celle de Nice, eh bien, vous pouvez venir évoquer ce souvenir avec nous. 39-21 et à tout à l'heure, Alexandre, parce que j'allais vous oublier. À 23h, je suis parti. Moi,
on se retrouve très vite.
À tout à l'heure.